Bon, alors attention, on est prêt. Moteur, ramène la 24 deuxième.
Ça s'appelle le miroir de l'âme.
Bon, alors j'ai changé le titre, hein, parce que le miroir de l'âme, c'était pas possible.
Oula.
Clap Cinéma, une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Oui, on a envie de voir, c'est sûr.
Bonjour, bonjour à tous. Nous nous retrouvons toutes les trois, Laura, Anne et moi-même, pour un Clap Cinéma. Et nous avons pris l'habitude de débattre d'un film. Donc, dans une première partie, chacune d'entre nous va présenter un film, soit en rapport avec l'actualité, soit uniquement selon ses goûts. Et dans une deuxième partie, nous débattrons d'un film récent dont nous ferons deviner le titre par une bande-annonce au milieu de l'émission. Alors, on commence avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Sylviane et bonjour Laura.
Alors, vous avez choisi.
J'ai choisi Mon gâteau préféré, un film qui a à peine un an, enfin qui est sorti il y a un an en France, en guise de d'hommage au peuple iranien qui a démontré récemment encore son courage et qui subit à nouveau des événements tragiques auxquels il ne peut rien. Alors, sorti il y a un an, le film, comme je le disais, il a été tourné par hasard, en fait, pendant les grandes manifestations qui dénonçaient les violences contre les femmes, après la mort de Mahsa Amini en septembre 2002. Donc, ce n'était pas délibéré, mais il se trouve que c'était comme ça.
Mmh, belle coïncidence.
Une incidence un peu sur le tournage qui était plus difficile encore que prévu. Alors, mon gâteau préféré, pourquoi ce titre? C'est celui que Maïne, veuve de longue date, prépare tous les jours dans l'espoir d'une rencontre qui n'arrive jamais. En attendant, elle ne s'ennuie pas complètement. Elle déjeune avec ses vieilles copines régulièrement, des veuves comme elle depuis des lustres. Et pour notre plus grand plaisir, la conversation porte sur les hommes, maris, amants, rencontrés au hasard, avec force rire et complicité. Mais cette fois-là, elle décide d'en finir avec son interminable solitude, bien qu'elle la partage avec ses amis. Et elle décide aussi de braver le respect des bonnes mœurs en sortant de chez elle pour aller rencontrer un homme. Alors, ça nous vaut d'abord une série de scènes de drague carrément comiques. Par exemple, elle fait semblant de faire la queue devant une boulangerie. En fait, elle se colle à un homme tout en faisant semblant de vouloir acheter son pain. Je passe d'autres épisodes. Mais elle finit par aller déjeuner dans un restaurant pour retraités, un peu en désespoir de cause. Mais là, elle repère un homme de son âge qui est chauffeur de taxi. Alors, prête à tout, elle transgresse tous les codes et le convainc de la ramener chez elle. Elle est assise à l'avant de la voiture, déjà, quelle audace, à côté de lui donc, et elle entame une conversation qui devient de plus en plus personnelle. Et elle devient de plus en plus souriante, tandis que les mimiques de son chauffeur, Faramarz, marquent son inquiétement en fait. En quelques mots, l'affaire est faite, hein, il se retrouve chez elle. Elle qui ne veut pas vivre seule et lui qui ne veut pas mourir seul. Et les voilà en train de boire du vin, de danser. Ils sont même sur le point de faire l'amour, mais le destin en décide autrement. Et tant mieux pour les bonnes mœurs cette fois. Mais je ne vous révélerai pas comment. Cette fin est triste pour le coup. On ne voit pas comment les réalisateurs auraient pu s'en sortir autrement, en Iran. Et la voilà à nouveau face au vide qui la rattrape. Mais elle ne regrettera jamais ce qu'on pourrait appeler cette parenthèse enchantée. Alors, il ne faut pas oublier de dire que ces deux vieux acteurs délicieux sont pour beaucoup dans la réussite du film et le plaisir qu'ils nous donnent. C'est un bon bol d'air face à la machine répressive de l'Iran qui se poursuit quand même depuis une cinquantaine d'années. C'est une autre manière, bienvenue aussi, d'y résister que celle à laquelle nous a habitué le cinéma iranien. Ici, elle est salutaire et joyeuse et elle nous fait un peu oublier toute la tragédie qui se joue en Iran depuis si longtemps. Alors évidemment, on se doute que Maryam Mokaddam et Ben Behtash Sanaya, qui sont mariés et femmes, sont privés de passeport et ont été l'objet d'une peine de prison avec sursis, c'est déjà pas mal, assortie d'une amende. C'est un moindre mal en l'occurrence. Et eux ont dédié leur film aux femmes honorables de notre pays qui sont montées en première ligne dans la lutte pour le changement social. Fin de citation.
Merci Anne, et on va écouter quelques mesures de musique iranienne pour compatir et s'associer à la tragédie que vit ce peuple iranien.
اگه ماه از آسمون پایین بیاد در بزنه، اگه مرغ بخت و اقبال رو سرم پر بزنه، اگه رعد آسمون داد بزنه تو سرم هزار تا فریاد بزنه، چون تو مهمون منی در و با نمی کنم، مونس جون منی در و با نمی کنم، در و با نمی کنم، نه در و با نمی کنم.
Alors Laura, vous avez choisi quelque chose de tout à fait opposé, mais alors, on compte sur vous.
Exactement, donc déjà bonjour, bonjour Sylvia, oui, et bonjour Anne. Donc pour ce clap, je vais un peu sortir des sentiers battus en parlant du film Logan, réalisé par James Mangold et sorti en 2017. Pour faire une petite parenthèse sur James Mangold, c'est notamment le réalisateur des films Identity, 3h10 pour Yuma, Le Mans 66 et plus récemment Un parfait inconnu, le biopic dans lequel Timothée Chalamet incarne Bob Dylan. Donc vous connaissez probablement au moins un des films de ce réalisateur très diversifié.
Aucun, je suis désolée.
Non, sérieux ?
Oui, sérieux.
Ok, bah il va falloir rattraper tout ça.
Promis.
Donc, pour en revenir à Logan, c'est un film de super-héros puisqu'il s'inscrit dans la saga X-Men. C'est le 10e film de cette franchise, sauf qu'il ne suit pas vraiment la même ligne temporelle que les autres films. On sait que Marvel adore multiplier les univers possibles et créer des multivers. Donc l'histoire se déroule en 2029, dans un futur proche. On y suit Logan, plus connu sous le nom de Wolverine, usé par la fatigue, qui veille sur un professeur Xavier affaibli, dissimulé dans un refuge secret à la frontière mexicaine. Mais son désir de s'isoler du monde et de tourner le dos à son passé est mise à l'épreuve lorsqu'une jeune mutante, traquée par de mystérieux individus, surgit brusquement dans sa vie. Je vous vois venir, celles et ceux qui ont en horreur les films de super-héros et qui disent que c'est toujours la même chose. Dans ce cas précis, le film revisite justement ce genre de film. Ici, les héros ont vieilli. Ils ne sont pas invincibles, ils peuvent contracter des maladies, comme par exemple le professeur Xavier qui est atteint d'Alzheimer. Et enfin, les héros peuvent mourir. Donc, ils sont clairement pas invincibles, vous l'avez compris. C'est pour cette raison que le film Logan est déroutant. Il balaie les stéréotypes des films de super-héros et vient complètement bouleverser nos attentes. Aujourd'hui, les films de super-héros ont plutôt mauvaise réputation, car soit on dit qu'il y en a beaucoup trop, en moyenne peut-être 2-3 films par an, soit on dit que ce sont tous les mêmes à 2-3 détails près, comme je le disais auparavant. C'est peut-être vrai pour certains, du moins pour ma part, je pense qu'il existe un nouveau type de film de super-héros qui tend à s'éloigner du modèle blockbuster traditionnel qui se mêle avec d'autres genres. Par exemple, là, dans Logan, c'est pas seulement un film de super-héros parce qu'il s'inscrit aussi dans un univers qui est dystopique et aussi il joue beaucoup avec les codes du road movie. Il y a beaucoup de déplacements, de voyages pendant le film sur les grandes routes américaines, on connaît. Cette évolution du genre lui permet même d'envisager une reconnaissance dans des cérémonies comme les Oscars, traditionnellement peu ouvertes à ce type de production. Par exemple, en 2018, Logan est nommé à l'Oscar du meilleur scénario adapté, une première pour un film issu d'un comic book. Quoi qu'il en soit, si vous acceptez de donner sa chance à Logan, ce que je vous recommande vivement, même sans avoir vu les autres films X-Men d'ailleurs, je vous suggère aussi de découvrir The Batman de Matt Reeves et Les Nouveaux Mutants de Josh Boone qui s'inscrivent dans une approche assez similaire.
Merci Laura, vous allez finir par me convaincre d'aller voir des films.
Mais j'espère même.
Mais bien sûr, il faut avoir l'esprit ouvert.
Exactement.
Alors je vous propose qu'on écoute, non pas la bande-annonce qui serait un petit peu banale, on va écouter la bande musicale. Thank you. Alors moi, je change complètement d'époque, puisque j'ai choisi Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick, de 1957, avec comme héros surtout Kirk Douglas. Et si j'ai choisi ce film, c'est, je vais peut-être vous en donner un synopsis rapide, mais c'est surtout en liaison avec le film dont nous allons débattre après, puisque sur la Première Guerre mondiale, ce film a été l'objet d'une censure. C'est-à-dire que paru en 1957, il a été interdit en France jusqu'en 1975. Donc c'est intéressant de savoir pourquoi ce film a été interdit. Alors moi aussi, je l'ai choisi parce que le travelling de début m'a absolument marqué. La première fois que j'ai vu ce film en 1975, j'ai vraiment été scotché par ce travelling absolument extraordinaire dans les tranchées avec Kirk Douglas qui marche donc dans cette tranchée. Un petit peu propre à mon avis, hein, puisque lors des tranchées, il y avait beaucoup plus de boue. En plus, ce film a beaucoup marqué car il a été donc très vite censuré. Et ce que j'ai trouvé assez surprenant, c'est qu'on appelle à la vindicte vraiment de l'État français. En pleine guerre d'Algérie, non, il ne fallait pas montrer une armée française compliquée et un peu, un peu inégalitaire. Et que Stanley Kubrick, très jeune réalisateur, à peine une trentaine d'années, savait qu'il faisait un film qui serait censuré. Et alors j'ai lu une phrase de l'universitaire Severin Graf qui disait « Non seulement Kubrick avait conscience que la censure allait s'appliquer, mais que le film serait présenté à ce moment-là aux États-Unis comme un film sulfureux et que ça valait la peine de renoncer aux entrées françaises. » Donc j'ai trouvé cela tout de même intéressant. Alors rapidement, parce que le film est très dense, c'est l'histoire d'un colonel qui s'oppose à sa hiérarchie. Et ce qui est très original, ce n'est pas la guerre entre deux camps, entre deux pays, mais c'est la guerre entre les soldats et les généraux. Et ce film a été très souvent marqué par le titre « Du sang pour les étoiles ». Or, le sang pour les étoiles, c'était l'objet des mutineries en 1917, refusées d'aller faire de la chair à canon pour donner des étoiles aux généraux. Et c'est un peu cette idée du film. Le colonel Dax ne veut pas envoyer ses hommes à la boucherie parce qu'il n'y a absolument pas d'artillerie par derrière. Et un général lui impose l'ordre d'y aller. Bien sûr, ces soldats sont absolument anéantis et c'est vraiment une réflexion sur l'armée. Voilà pourquoi l'armée française, en 1957, la guerre d'Algérie avait démarré en 1954, n'a pas voulu montrer ce film. Alors, il y a d'autres petites anecdotes. On dit que le film a été interdit parce que il ne représentait pas l'armée française. Il y avait des incohérences, il paraît, alors que les casques n'étaient pas les casques de l'année 16, que les fusils n'étaient pas les bons fusils, que les décorations n'étaient pas les bonnes décorations. Je pense qu'en fait, c'était simplement parce que c'était un film qui dérangeait. Je vous rappelle que l'armée, on l'appelait la grande muette et que la censure a vraiment marqué. Même qu'un film en 57 ne soit produit en France qu'en 1975, ça nous pose vraiment le problème des tabous politiques, des tabous historiques. Et vous verrez, ça a peut-être un rapport avec le film dont nous allons parler après. Alors, Kirk Douglas était le grand acteur américain, mais il y a un Français dans ce film, c'est Adolphe Manjou, qui était très célèbre à l'époque et qui joue le très vilain général. Il pense en fait que Dax voulait lui aussi avoir des étoiles, et pas du tout. Et j'ai noté, pour les plus âgés d'entre nous, que les voix des doubleurs, Kirk Douglas était doublé par Alain Motet. Alors, je pense que pour certains, Alain Motet, c'est tout de même quelqu'un de très grand dans les acteurs. George McCready était doublé par George Wilson. Et Ralph Meeker était doublé par Sylvain Joubert. Et Timothy Carey par Jacques Balutin. Donc, je trouvais que c'était un bel hommage à rendre aussi aux doubleurs, à ce métier parfois méconnu. Alors, je vous propose d'écouter, comme pour la deuxième partie, la bande-annonce d'un film que vous allez certainement reconnaître et nous en débattons ensuite toutes les trois. À tout de suite.
Plus jamais ça. Car la guerre ne résout rien. À la table là, il y a ma petite fille Corinne. Elle ne grandira pas dans une Europe déchirée par les conflits armés entre les peuples.
Je voudrais raconter comment on en est arrivé là.
Willkommen.
Au début des années 30, mon père et Otto étaient des pacifistes convaincus.
L'Allemagne veut la paix.
Je crois qu'il faut, maintenir le dialogue avec Hitler.
Désormais, il y a un homme à l'ambassade d'Allemagne qui est mon ami depuis toujours. Et son idée, c'est une politique de collaboration sincère entre les deux pays.
Qu'est-ce que tu veux dire par collaboration ? Tout ça, c'est un jeu de dupes et je te sais trop intelligent pour pas le voir.
J'allais avoir 20 ans. Tout était encore possible.
Moi, je savais pas.
Est-ce que tu as recherché à savoir ?
On nous traitera, mon père et moi, de salauds, de collabos. Mais quand est-ce qu'on devient une collabo ?
Tout ça, c'est ta faute ! Moi, j'ai rien fait !
J'ai rien à justifier. Rien !
Il a choisi de trahir.
Je suis innocente, innocente, vous avez compris ?
Il a choisi l'or. La compromission.
À qui tu dois rendre des comptes pour tout ça ?
À ma conscience.
Alors sur Radio Alliance Plus, nous nous retrouvons avec Laura et Anne pour parler de ce film. Je pense que vous avez reconnu Les rayons et les ombres de Xavier Giannoli, avec dans le personnage de Jean Luchaire, Jean Dujardin, qui a été tout de même un élément de promotion publicitaire énorme, dans le rôle de sa fille Corinne Luchaire, Nastia Golubeva. Alors ce film, je vous parlais de censure à propos des Sentiers de la Gloire, ce film, moi, m'a absolument émerveillée. Je suis vraiment comblée par ce film. Bon, j'ai quelques petites remarques tout de même à faire, mais c'est un film qui dure 3h19 et je n'ai pas vu le temps passer, ce qui chez moi est rare parce qu'au bout de 2 heures en général, je faiblis. Là, pas du tout. C'est un film sur la collaboration, sur la banalisation du mal, l'aveuglement humain et sur une période très douloureuse pour la France, c'est-à-dire de 40 à 44, la collaboration sous le régime de Vichy. Et ce que je tenais avant de vous donner la parole, c'est que la guerre, on ne la voit pas. Elle est totalement hors champ. Hors champ aussi les tortures, hors champ aussi les rafles, hors champ aussi la Shoah. Comme si le réalisateur partait du principe qu'on sait tout ça. C'est là où je critique un peu parce que je trouve que ça manque un petit peu de repères chronologiques. Mais bon, on verra là après. Et c'est un film qui vraiment nous rend, nous spectateurs, intelligents, actifs. Moi, après, j'ai lu tout ce que je pouvais trouver sur Jean Luchaire. J'ai lu tout ce que je pouvais aussi sur Victor Hugo, puisque le titre est tiré d'un poème de Victor Hugo. J'ai lu aussi, enfin, quelques éléments sur Robert Nesnos, qui avait repris dans des poésies ce titre. J'ai lu aussi sur Léonide Mogy, un cinéaste très important qui est montré dans le film. Et c'est ça que j'aime dans le cinéma, c'est que ça nous oblige à nous instruire encore plus. Alors vous, Anne ?
Alors moi, effectivement, sur l'absence de rafles ou de massacres ou des ports d'étoiles jaunes dans le film, moi je trouve que ça ne me dérange pas du tout. Je trouve que c'est un parti pris qui est tout à fait intéressant. Effectivement, on peut penser que tout le monde est au courant, mais c'est surtout que ça permet de mettre plus le feu des projecteurs sur toute cette population qui ne demande pas mieux que de se rendre utile aux Allemands, aux nazis en fait. Moi, pour commencer, quand même, je voudrais dire qu'il y a un bon point pour Xavier Giannoli, c'est que les Français ont la réputation de ne pas se pencher volontiers au cinéma, bien sûr, sur les zones d'ombre de leur histoire. Lui, ici, il s'y attaque frontalement, et l'occupation de la France pour la Deuxième Guerre mondiale et, plus précisément, l'histoire vraie de Jean Luchaire, c'est quand même quelque chose de relativement courageux, en tout cas de relativement rare dans la cinématographie française. Est-ce que je peux esquisser un peu l'histoire du film en disant que...
On va peut-être demander à Laura déjà son impression. D'accord. Avant de... pour bien. Alterner un peu les voix.
Vas-y Laura.
Ok, moi juste pour en revenir à ce que tu as dit par rapport au fait que justement, la guerre est totalement absente, c'est vrai, je suis d'accord. Mais justement, je pense que le parti pris, c'est parce qu'il a voulu qu'on soit comme les personnages et comme la personnage de Corinne Luchère qui n'était pas au courant de ce qui se passait, qu'elle a un peu tout découvert vers la fin, parce que son père ne lui disait rien. Et tout. Après, bien sûr, elle n'a pas cherché à s'intéresser à ça, mais je pense que toute cette absence même de chronologie, c'est dû au fait que le réalisateur a vraiment voulu nous placer dans la position des personnages desquels il traitait.
Mais ce n'était pas une critique, hein, le fait que justement ce soit hors champ.
Mais donc voilà, et sinon moi j'ai bien aimé le film et je rejoins Sylviane sur le fait que j'ai du mal avec les films très longs au cinéma. Et là les 3h19, je ne les ai pas vus passer. C'était plutôt bien rythmé, donc je ne me suis pas ennuyée à aucun moment et j'ai trouvé que c'était très intéressant.
Et le jeu des acteurs était très très puissant.
Le contester, annoncé par Dujardin, qui est capable de se glisser dans tous les rôles les plus différents possibles. C'est formidable.
Ce qu'il a réussi à faire, c'est que le film a été marketé autour de lui. Parce que Giannulli a dit qu'il n'aurait pas fait ce film sans Dujardin. Au début, Dujardin ne voulait pas le faire. Et il a accepté de le faire. Et justement, Jean Dujardin a réussi à un peu, entre guillemets, s'effacer dans le film.
Tout à fait.
Parce que j'ai trouvé que c'était plutôt le personnage de sa fille qui était plus mis en avant. Et donc, il a réussi à s'effacer, bien que la promo du film était faite autour de lui.
Oui, non, mais étant ça, il a beaucoup intériorisé. Et j'ai trouvé justement assez fascinant qu'il montre... Enfin, moi, la question de fond de ce film, c'est... Est-il conscient de ce qu'il fait? Et s'il le fait, il le fait pourquoi? Par argent? Par... En plus, avant de te redonner la parole, Anne, il y a tout de même ce spectre en permanence de la tuberculose. Hein. La fille comme le père sont tuberculeux. Il y a beaucoup de scènes avec ces crachats de sang, etc. Ils savent qu'ils vont mourir. Hein. Il n'y a pas de pénicilline à l'époque. Donc... Est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils ne savent pas? Pour moi, c'est ça qui m'intéresse. Et Léonine Mogui, à la fin, tout à fait à la fin, dit à Corinne Luchère, tu n'as pas su, mais qu'est-ce que tu as fait pour savoir? Et moi, je trouve que c'est la phrase majeure du film. Alors, Anne, pour un synopsis.
Alors, le synopsis, j'étais plutôt partie sur la manière de... Une idée de ricocher par rapport à ce que tu... disait sur la tuberculose, moi justement, j'ai trouvé qu'il y avait trop de passages. Alors d'abord, c'est le père qui crache, alors on nous fait bien voir les traces de sang dans ses crachats. Après, c'est la fille, on peut supposer que c'est son père qui lui a filé la tuberculose. Et après, on ne voit pas la petite fille de Corinne, mais on peut supposer qu'elle va y passer elle aussi. Ça, ce n'est pas précisé.
Si je peux me permettre d'intervenir, je pense que... il y a peut-être une histoire de parti pris. On ne montre pas la guerre, mais quand même, on va montrer des choses très graphiques, le sang. Et peut-être que... Enfin, pas la guerre est montrée à travers justement ces scènes un peu gore, comme on peut dire. Mais peut-être une intention là-dedans.
Peut-être. Ce sont des êtres qui sont destinés à la mort. Hein, je pense. Ah, et Luchère et Jean Dujardin, justement, le jouent très bien. Je trouve, on voit sans arrêt ce regard. Il est comme absent. J'ai l'impression qu'à parfois, il se dédouble. Il se regarde jouer et c'est en ça qu'il est très fort. Et je voulais citer un assistant à la réalisation et au scénario, qui est Cédric Meletta, qui est le seul écrivain qui a fait la première biographie consacrée à Jean Luchère. Et justement, il parle un petit peu de ce rapport à la mort, parce qu'il est d'une famille très aisée, d'une famille très intellectuelle, d'une famille très ouverte à la discussion, à la littérature, à la politique. Comment s'est-il laissé broyer, enfin, volontairement ou pas volontairement? Pour moi, c'est l'essentiel du film.
Mais en tout cas, pour moi, la première partie du film est la plus intéressante.
Oui.
Donc, tu y fais très là dans ce que tu disais. Donc, ça se passe dans les années 20, dès les années 20. Jean Luchère est un pacifiste convaincu, de même que son ami allemand Otto Abetz. Ils sont très amis, donc, et ils tiennent des meetings enflammés où ils défendent leurs idées. C'est une grosse surprise, en fait, parce que tout le monde n'est pas au courant de ce qui a précédé cette Deuxième Guerre mondiale. Mais en fait, on est juste après la fin de la Première Guerre. Ça n'a pas duré très longtemps, la paix. Et effectivement, il y avait des défenseurs acharnés de la paix.
Ils suivaient Aristide Briand. Hein, c'est tout le courant Aristide Briand sur l'amitié franco-allemande.
D'accord. Mais on se demande justement comment Jean, partant de là, deviendra ce défenseur de la collaboration comme une noble cause, en fait, destinée à éviter la guerre ou en tout cas à amortir ses dégâts, quoi. Mais alors, autre chose, à la place, qu'est-ce qu'on a ? On a d'innombrables soirées mondaines, des rendez-vous faits de petits arrangements, des conférences de rédaction sidérantes. Et alors, le mieux, ce sont ces soirées justement quasiment obscènes, avec les décors et costumes flamboyants durant cette période sombre de l'histoire. Et effectivement, il fallait bien faire quelque chose du budget de 30 millions d'euros qui a été octroyé à Giannoli. C'est quand même des plus rares. Voilà.
Enfin, je signale que dans ces scènes, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que les gens se précipitent sur les buffets dans ces réceptions parce qu'en fait, ils crèvent de faim.
Moi, donc, je pense pas du tout.
Il y a ce décalage entre ceux.
On peut penser aux autres, peut-être. Ça fait allusion à ceux qui crèvent de faim, peut-être.
Ah, peut-être. Mais aussi, après, c'est dans l'intention de montrer que vraiment, il y avait la guerre d'un côté qui n'est pas montrée dans le film et qui est complètement hors champ. Et donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient de leur vie ? T'as tout le contraste de, oui, ils font la fête et tout.
Et moi, quand je disais le petit problème chronologique, c'est qu'au début, on a l'impression que c'est dans les années 37-38, puisque Corinne Hucher est née en 21. Moi, j'ai fait le calcul dans ma tête. Elle est née en 21. Et là, elle commence sa carrière cinématographique à 17 ans. Donc, on est en 38. En 38, ça fait 5 ans qu'Hitler est au pouvoir. Mais donc moi, ça m'a gênée au début.
Il me semble qu'elle est petite fille au tout début du film, non ? Moi, je crois
bien. Enfin, ça m'a un peu gênée, peut-être que j'étais pas assez attentive au début. Et on ne peut pas dire en 38 qu'on ne sait pas qu'Hitler est au pouvoir depuis 5 ans. Il va y avoir les accords de Munich, il va y avoir la nuit de cristal. Donc, on ne peut pas se dire qu'en 38, tout allait bien.
Non, effectivement, mais par exemple, Laval avait envoyé Lucher rencontrer Hitler, si je ne me trompe pas, pour essayer de défendre encore la cause de la paix. Donc, c'était bien tard, en fait.
Donc, ce film, là, on en parle très rapidement. De toute façon, on est toutes les trois tout de même assez convaincues de l'utilité de ce film, de ses qualités cinématographiques. Moi, je trouvais que c'est bien filmé. Et puis, qui fait déjà beaucoup d'entrées. Hein, plus de 350 000 entrées au bout de 15 jours sur un film sur la collaboration. Peut-être que Jean Dujardin fait qu'il y a beaucoup de fréquentations. Mais je trouve ça intéressant qu'on ouvre un petit peu les œillères sur une période noire. C'est pour ça que j'avais choisi Les Sentiers de la Gloire en première partie sur la guerre de 14-18. Ce film Les Rayons, les Ombres sur la collaboration. Et je rappelle, enfin moi je l'avais vu, le film Le Chagrin et la Pitié, qui était le premier documentaire fait sur la collaboration. Jusqu'à maintenant, on n'avait que le discours gaulliste, tous les Français étaient résistants. Et en 75, on commençait à dire, ah mais non, tous les Français n'ont pas été des résistants.
Et on peut rappeler aussi qu'il faisait 4 heures. C'est qu'à l'époque, vu que c'était du 35 mm, il fallait faire deux parties parce que sinon ça ne tenait pas sur une seule bobine.
Voilà. Et moi, je me souviens, en 75, je l'ai vu à Paris, comme il y avait les gaullistes qui n'étaient pas du tout d'accord pour ce film, on avait la police autour des cinémas.
Ah, ça,
je me souviens très bien. Donc voilà, le cinéma nous fait réfléchir, c'est bien. Merci à toutes les deux et à bientôt.
Merci Sylviane et Laura.